Bonjour à tous. Quelqu'un se souvient du sujet de la dernière fois, du dimanche dernier? On le meuble. Pedro, si tu es la première.
La foi et le pardon.
Ouais, c'est ça. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, tu pourras dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. On chantera ce chant-là après le message. Quelqu'un a réussi cela cette semaine en guise de devoir à la maison? En guise d'exercice pratique?
La dandoche est toujours là.
Déplacer une montagne. Ma chère, les Joséphines ont voulu me faire une blague en disant « Allez, on la déplace !» Et finalement, ils se sont ravisés. Je leur suis reconnaissant. Est-ce que quelqu'un au moins a réussi à faire se déraciner un arbre pour le faire se planter dans la mer ou juste dans le lac? Un arbuste. Non plus. Alors heureusement qu'il y a une deuxième partie aujourd'hui, effectivement, mais blague à part, j'espère que nous avons pensé et osé demander au Seigneur de fortifier notre foi, de nous faire grandir dans notre confiance en lui, pour pouvoir notamment pardonner. Effectivement, c'était le domaine de foi pour lequel Jésus nous défiait en particulier, nous inviter à mettre notre foi en œuvre dans du concret. Pardonner un peu, et même jusqu'à 7 fois, jusqu'à 7 fois 70 fois, envers toutes celles et ceux pour lesquels cela a pu s'avérer nécessaire cette semaine. Oh là, c'est une trop grosse montagne pour moi, ça. Seigneur, ajoute-nous de la foi. C'était un verset phare du passage principal, une prière à s'approprier sans modération. Évidemment, ce n'est pas un joug de l'ordre quantitatif, puisqu'une foi minimale, pas plus qu'un petit grain de moutarde suffit pour faire des choses incroyables. Nous n'avons donc pas besoin de tonnes de foi. C'est de fait plutôt un ajout qualitatif, celui d'une assurance sans hésitation ancrée en Dieu, d'une confiance en Dieu sans doute aucun. C'est dépendre et s'appuyer sur Dieu, nous le savons. Et ce matin, j'invite à considérer un autre passage avec cette expression dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17. Non, celle d'avant, Pedro, t'as une d'avance, là. Voilà. Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Génération incrédule et perverse, on dit Jésus, « Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé: « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?»« C'est parce que vous manquez de foi, » leur dit Jésus. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque-là. » et elle se déplacerait. Rien ne sera impossible pour vous. » Alors, l'authenticité originelle du verset suivant fait débat dans Matthieu, alors je le prends dans l'évangile de Marc, le 29, où Jésus dit aussi aux disciples: « Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. » Pour donner quelques mots de contexte rapidement, c'est un passage qui se situe juste après, dans la continuité immédiate du fameux épisode de la transfiguration. Épisode en fort contraste avec notre passage. Comme l'a imaginé le peintre Raphaël, dont vous avez une copie de son tableau ici sous les yeux. Sur une montagne, il s'est passé le caractère exceptionnel et même unique des transformations de Jésus, où s'est manifesté de façon toute particulière qui il est. De façon céleste et glorieuse, Jésus a changé d'aspect, et son identité de fils bien-aimé fut de nouveau confirmée par une parole audible de Dieu le Père lui-même. Pierre, Jacques, Jean, trois des apôtres, sont des témoins privilégiés de l'événement. Et pendant ce temps-là, donc ça explique l'absence de Jésus avec la foule et avec les autres disciples, ce Père vient et donc est allé vers les autres disciples, les autres apôtres vraisemblablement. Rien sera impossible pour vous. Vraiment ? Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Mais je peux le faire. J'ai la foi, rien ne m'est impossible. Quand cet homme est venu avec son fils vers les disciples de Jésus et leur a demandé d'intervenir, c'est peut-être ce que chaque disciple s'est dit. Allez, nous pouvons le faire. Nous avons la foi, rien ne nous est impossible. Quand cet homme est venu avec son fils et leur a demandé aux disciples d'intervenir, c'est peut-être ce que les 9 apôtres, et je pense qu'on parle d'eux dans ce passage, se sont collectivement dit. C'est vrai quoi ? L'union fait la force. Alors dans une communion et une cohésion pas nécessairement fréquente parmi eux, mais le défi était quand même de taille, peut-être qu'ils ont eu le réflexe de s'unir quelque peu, d'unir leurs efforts, d'unir leur foi. Mais pas de chance. Et j'utilise exprès cette expression pour interpeller, évidemment. Nous savons que la chance n'existe pas. Alors bannissons ce mot de notre vocabulaire, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Accablant constat d'échec. Et pourtant, si vous regardez un peu plus avant dans le même évangile, au chapitre 10, il est dit que, clairement, que Jésus, quand il avait appelé ses 12 disciples, il leur avait donné l'autorité pour chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité. Notre traduction dira, il leur donna le pouvoir. Et ce même passage de Matthieu 10 confirme les instructions de Jésus. Guérissez les malades, réveillez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Du costaud, diverses montagnes à leur portée. Ben alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi ça ne marche plus ? C'est quoi le problème maintenant ? La potion magique ne fait peut-être plus déjà effet ? Plus sérieusement, était-ce une autorité ou un pouvoir temporaire seulement que Jésus leur avait donné ? Et Dieu a effectivement le droit et la liberté de nous accorder certains dons de manière seulement ponctuelle ou temporaire. Mais il ne semble pas que ce soit ça ici le problème. Tu mets la suivante, Pedro aussi. Quand Jésus envoie aussi 70 autres disciples avec le même genre d'autorité ou de pouvoir, c'est chronologiquement un peu après notre épisode, rapporté dans l'évangile de Luc au chapitre 10, nous pouvons noter leur retour enthousiaste. Et ça nous semble bien normal. Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Extra, super, génial. Conjecture de ma part, mais ils sont peut-être un peu grisés par les événements, par ce qu'ils ont pu accomplir, certes au nom de Jésus. Mais en oubliant peut-être un peu que ce n'est pas exactement à eux que les démons se soumettent. C'est à Jésus. Donc ils ne sont que les représentants, les humbles représentants, enfin, normalement. Et c'est normalement cet état d'esprit d'humilité qui devrait être le leur. Et dans ce passage-là, Jésus, un peu rabat-joie quand même, leur avait d'ailleurs répondu: « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Les disciples, emportés par leur joie, bien compréhensible, hein, au demeurant, se trompaient d'essentiel. Alors j'extrapole, évidemment, parce que le texte ne le dit pas expressément des neuf apôtres de notre passage. Mais peut-être, là aussi, conjecture de ma part, peut-être que les apôtres, vers qui le Père et avec son Fils sont allés, ont-ils pu aussi faire preuve d'un peu de suffisance, un peu de prétention, d'excès de confiance en eux, fort des exploits passés qu'ils ont effectivement faits. Peut-être pensent-ils, allez, on peut le faire, rien ne nous est impossible. Je fais exprès de mettre dans ces paroles que j'invente les mots « nous avons la foi » que je mettais aussi tout à l'heure. Le Père va vers eux et eux répondent peut-être « oui, bon, Jésus n'est pas là pour le moment, mais pas de problème, on gère. On sait quoi faire, on a déjà fait. » Mais la conclusion est autre. « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon ? C'est parce que vous manquez de foi. C'est parce que des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. Peut-être que les disciples ne manquaient pas de foi en eux-mêmes. Peut-être qu'ils ne manquaient pas de foi en leur capacité propre, en leur autorité, en leur pouvoir. Jésus ne leur avait-il pas effectivement donné cela ? Et ils avaient déjà pu être efficaces dans un passé pas trop passé. Certes, mais peut-être manquait-il maintenant d'appui sur Jésus. Peut-être manquait-il de dépendance effective envers Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, leur soulignera plus tard le Seigneur. Je crois qu'ils avaient, selon toute vraisemblance, quelque peu oublié ce fondement, ce fondamental. Croire que le pouvoir est effectivement le leur, croire que l'autorité est effectivement la leur, les a peut-être leurrés quant à leur capacité à aider cet homme et son fils. Les esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière, précise Jésus. Ils étaient trop sûrs d'eux, au lieu d'être sûrs de Dieu. C'est Sylvain Romerovski, professeur et théologien, qui, dans un écrit sur ce passage que j'utilise pas mal ce matin, nous rappelle que nous prions lorsque nous sommes conscients d'un besoin pour demander à Dieu d'y répondre. Nous prions lorsque nous sommes conscients de notre insuffisance, de notre faiblesse, de ce que nous n'y arriverons pas seuls ou par nous-mêmes. Les disciples n'avaient pas prié. Ils croyaient peut-être pouvoir se suffire à eux-mêmes sans faire appel à Dieu. Ils n'avaient pas exercé la foi à ce moment-là. La foi véritable est dépendance de Dieu. Et non pas pouvoir à notre disposition. La foi véritable est dépendance de Dieu. Et non pas pouvoir à notre disposition. Mais oui, c'est bien sûr. Vous savez, on l'avait un peu oublié. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose, évidemment, en rappelant cela ce matin. Mais rappeler les évidences, nous le savons, ne peut pas faire de mal. Et peut-être même encourager, j'espère. Par contraste, le Père, et c'est le récit parallèle de Marc qui nous le rapporte, est beaucoup plus humble. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide, dit-il à Jésus. Et Jésus de lui répondre, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois !» Point de foi de la phrase. On le connaît, ce passage. « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité !» Pas de suffisance, pas de présomption. De la foi. Pas grand-chose. Une foi dont il a bien conscience de la faiblesse. Une foi pour laquelle il a bien l'humilité de le reconnaître, pour laquelle il a besoin d'aide. Et cette foi-là est suffisante pour que Jésus agisse. Cette foi-là est suffisante pour que Jésus agisse. Oui, mais Jésus l'a quand même bien dit. C'est parce que vous manquez de foi, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi jusque-là, et elle se déplacerait, rien ne sera impossible pour vous. Jésus le dit, et pourtant, tant de choses me restent impossibles. Tant de choses me restent impossibles. Oui, c'est une réalité, mais à bien y réfléchir, ce n'est pas une réalité qui caractérise nécessairement, pas toujours en tout cas, un manque de foi de ma part ou de la présomption, comme on vient de le voir pour les disciples. Et d'ailleurs, continuité de cela, et sans contredire le Seigneur Jésus, je dis même et je rappelle qu'il est normal que plein de choses me soient impossibles. Il est normal que plein de choses me soient impossibles. Déjà, c'est tant mieux, ça m'évite d'attraper la grosse tête. Et ensuite, sans vouloir chipoter sur les mots, même si certaines personnes savent que je chipote sur les mots, si je disais tant de choses sont impossibles, ben oui, clairement, j'aurais un problème de foi. Car rien n'est impossible à Dieu. À Dieu. Mais pas à moi, personnellement. Je pense que c'est une évidence pour chacun et chacune d'entre nous. Oui, nous le savons, intellectuellement, en tout cas, rien n'est impossible à Dieu. Vous connaissez ce verset? Vous croyez ce verset? Si oui, alors à mon avis, vous avez déjà de la foi comme un grain de moutarde, voire bien plus. Et si ce n'est pas encore le cas, il faut le saisir, ce verset. Pas juste l'apprendre par cœur, mais s'approprier la vérité qu'il énonce. Croire et savoir que cela ne fait que mettre noir sur blanc une réalité de qui Dieu est, le Tout-Puissant. Dieu est le Tout-Puissant. Alors ce n'est que logique, rien n'est impossible à Dieu. En d'autres termes, comme pour le père de cet enfant, le doute est permis concernant notre foi. Mais le doute n'est pas permis concernant Dieu et les capacités de Dieu. Le doute est permis concernant notre foi, mais pas concernant Dieu et les capacités de Dieu. Oui, ça on sait, mais Jésus dit quand même bien, rien ne sera impossible pour nous. Alors je ne veux toujours pas contredire le Seigneur, évidemment. Mais je note une chose, dans l'épisode plutôt fort de la résurrection de son ami Lazare, par exemple, que fait Jésus juste avant? Que fait Jésus juste avant? Lui, homme parfait, lui à la foi parfaite, jamais fluctuante, jamais traversée par le moindre doute ou la moindre hésitation, que fait-il? Que fait Jésus juste avant? Oui, lui, Jésus, il prie. Il prie. Comme fréquemment d'ailleurs. Comme en toute occasion d'ailleurs. Comme conformément à ce qu'il dit aux disciples dans notre épisode. Avant que et afin que Lazare ressuscite, Jésus prie. Et que prie-t-il ? Pour être exact, nous ne savons pas ce qu'il a prié dans sa prière de demande qu'il a fait à Dieu le Père. Nous n'avons que le récit de la prière de louange et de remerciement qu'il fait après sa prière de demande. Et Jean nous le rapporte par ses paroles. Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit « Père, tu as exaucé ma prière. » Donc Jésus a bien fait une prière de demande dont nous n'avons pas les mots, mais que Dieu a exaucé. « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » Et Lazare est alors effectivement ressuscité et il sort du tombeau où il avait été placé il y a quelques jours déjà. Jésus, zéro doute. Zéro doute car Jésus sait. Et il sait notamment que Dieu exauce toujours ses prières, toujours. Pour lui, Jésus, rien n'est impossible. Et notre verset du jour est absolument exact pour ce qui le concerne. Rien ne lui est impossible. A fortiori, parce qu'il est Dieu le Fils. Et bien pourtant, en tant qu'homme, combien même homme parfait, combien même à la fois parfaite, jamais fluctuante, ni traversée par le moindre doute ou la moindre hésitation, comme je viens déjà de le dire, il prie. Il prie parce qu'il sait que l'impossible qui va s'accomplir à ce moment-là n'est pas un accomplissement de sa part. Ce n'est pas un exploit par lui-même, c'est un exaucement de Dieu. C'est un exaucement de Dieu, une œuvre de Dieu, un miracle de Dieu. Et pas le sien, lui le, entre guillemets, saint humain. Facile pour nous des fois de faire cette séparation des choses quand cela concerne Jésus homme ou Jésus Dieu, lui qui est homme et Dieu réunis. Je crois nécessaire de chipoter là-dessus, ou plutôt d'être précis là-dessus pour nous aider à comprendre ce que Jésus dit à ses disciples et nous dit aussi dans cette expression « Rien ne sera impossible pour vous ». Le possible sans limite pour lui, effectivement, n'a pas été fait par lui, Jésus homme, mais par Dieu, Dieu le Père, Dieu son Père. Et si c'est le cas pour Jésus, à votre avis, qu'en sera-t-il pour les disciples? Si c'est le cas pour Jésus, à votre avis, qu'en sera-t-il pour nous? À méditer. Rien ne sera impossible pour vous. L'extraordinaire n'est pas si étonnant, il est même à notre portée. Jésus le dit clairement. Et Dieu peut exaucer des choses hors du commun par notre entremise, c'est sûr. Oui, Jésus le dit dans ce passage. Oui, mais alors pourquoi ça ne marche pas toujours? Pourquoi ça ne marche pas même souvent pas? Quand on regarde les exemples dans la Bible, et ils sont nombreux, personnellement, j'en arrive à me dire et à vous dire ce matin qu'il me semble quasi impossible, ou en tout cas bien difficile, au-delà de ce que nous avons déjà pu dire depuis tout à l'heure, de systématiser ou de théoriser des règles, si règles il devait y avoir, pour ce que nous qualifierions d'exaucement, ou même peut-être un peu à tort dissuppositive, en tout cas à vue humaine. Tant d'exemples si différents, tant de situations et de cas particuliers. Je ne vais pas vous assommer de références bibliques maintenant, vous les aurez dans mes notes, si vous souhaitez creuser le sujet, mais souvent la foi est là, assurément là, pas de doute. Et pourtant, elle ne suffit pas. On connaît l'exemple personnel de l'apôtre Paul, qui le montre bien. Dieu a dit non à sa fervente et répétée prière. Mais Dieu, dans sa grâce, lui a aussi expliqué pourquoi. Et ça, c'est une belle grâce également. Fréquemment, en effet, il ne suffit pas d'y croire pour que ça marche. Et la foi est souvent pas en jeu. Pour s'en convaincre, il suffit de relire aussi Hébreux 11, ce fameux passage souvent intitulé « Les héros de la foi » dans nos Bibles. Parmi tous ceux vantés pour leur foi, il y a ceux pour qui ça a marché, et en contraste saisissant aussi pour ceux pour qui ça n'a pas marché. Même si cette expansion-là, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ça a marché ou ça n'a pas marché. À vue humaine en tout cas, car le succès, selon les hommes, diffère souvent de la définition que Dieu peut en avoir. En tout cas, il en faut de la foi pour être délivré de manière extraordinaire. Il faut aussi beaucoup de foi pour vivre l'épreuve sans voir la délivrance et rester attaché à Dieu. Je pense même que quand ça ne marche pas, beaucoup font preuve d'autant plus de foi que si leur demande de libération ou de guérison ou d'autres choses avait été exaucée, vous ne croyez pas ? Si nous considérons le cas de nos frères et sœurs dans les époques ou dans les pays où existe la persécution, et encore aujourd'hui, je pense que nous pouvons voir cela. Par contre, étonnamment, à l'inverse, on voit des exemples dans la Bible, des fois sans trop y croire, ou sans peut-être vraiment trop de foi, pourrait-on dire, ça marche quand même. Dieu intervient. On a la libération de Pierre. En acte 12, pour laquelle l'Église priait, mais reste quand même incrédule quand le résultat arrive et s'étonne. C'est complexe tout ça. Hein. Est-ce un problème au sujet de notre foi ? Comme déjà dit, il est utile de réfléchir si nous croyons plutôt en nos capacités ou en celles de Dieu. Et il y a un danger réel qui consiste à mettre sa confiance en sa foi au lieu de la mettre en Dieu. Car on le sait, la foi n'est pas un moyen de pression sur Dieu. Si on a bien compris que c'est au final lui qui fait, lui qui accomplit. Est-ce un problème de doute sur la capacité d'intervention de Dieu lui-même ? Un manque de foi, certainement, dans ce cas-là. Comme le père de l'enfant, demandons l'aide de Dieu pour effectivement être affermi et croire. Est-ce un problème d'insistance ? Et le distinguo entre insistance et persévérance n'est pas toujours facile. Comprenons mal la parabole du juge inique, il me semble que certains pensent que c'est une affaire de répétition et peuvent sortir un chapelet, au propre ou au figuré. Mais nous comprenons sans doute que la foi ne consiste pas en des incantations ou à faire pression sur Dieu. Bien heureusement, il n'est ni sourd, ni même ignorant de la situation. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est un problème d'appropriation des promesses, alors, ou de proclamation des vérités, d'invocation ou de déclaration, notamment du nom de Jésus ou du sang de Jésus. Si je parviens à y croire suffisamment, Dieu fera. Vraiment ? Ou est-ce un problème de prise d'autorité ? C'est sûr, il est fréquent que nous doutions des promesses de Dieu. Je ne crois pas que ça ira mieux en les brandissant ou en les martelant comme si c'était des formules magiques qui auraient en elles-mêmes un pouvoir. Je caricature évidemment, hein, mais des fois ça donne peut-être cette impression-là. Ah, mais j'ai dit au nom de Jésus quand même. Il y a même des passages de la Bible où Jésus dit « Il y a des gens qui ont ressuscité des gens en mon nom, qui ont prophétisé en mon nom, qui ont fait des tas de choses extraordinaires en mon nom, mais je ne les connais pas. Ce ne sont pas mes disciples. » Il y aura peut-être plus de questions à la fin du message que de réponses, hein, mais je vais peut-être pas un sujet de réflexion comme ça. Bref, quand nous avons bien la foi, un bon petit grain de moutarde, que notre foi est bien en Christ, en Dieu, et pas en nous, et quand nous avons bien conscience que rien ne se fait sans lui, et quand nous avons zéro doute que rien de lui est impossible, à lui, au contraire de nous. Et quand nous savons assurément que c'est Dieu qui exauce, pourquoi ça ne marche pas quand même ? Pourquoi ça ne marche même souvent pas. Reste alors l'argument massu des évangiles du bon ton que nous sommes. Ce n'est juste pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Bon argument imparable pour expliquer et justifier les non-exaucements de prière. Non ? Mais en Dieu ta foi, car il peut déplacer les montagnes. Oui, il peut. Mais le veut-il ? Le veut-il ? Oui, évidemment, nous le savons, la foi ne consiste pas à imposer à Dieu notre volonté. La foi, c'est chercher la volonté de Dieu et non la nôtre. La foi est dépendance de Dieu, on l'a déjà dit. Prier avec foi, c'est donc prier selon ce que nous connaissons de la volonté de Dieu. C'est à prier avec soumission à la volonté de Dieu. C'est avant tout demander que sa volonté soit faite. Tout ce que Jésus accomplit était toujours dans la mesure où c'était la volonté de son Père qu'il le fasse. Sa prière la plus dramatique, on le sait, à Gethsémané, le montre bien. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne, conclura-t-il. Et en ce sens, Dieu a exaucé sa prière. La volonté du Père a été accomplie. Notre foi verra des choses extraordinaires s'accomplir lorsque cela fera partie du plan de Dieu. Et moi, j'aime bien l'attitude de Daniel et de ses compagnons. On la connaît face à l'empereur babylonien et leur probable, ou possible, mort prochaine, brûlée vif. Oups. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, en roi. Ça, c'est de la foi. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Être assuré, sans doute aucun, que Dieu peut et le laisser faire comme il voudra. Même dans les situations potentiellement stressantes, quand même. J'ai envie de faire le test pour voir si j'ai suffisamment de foi dans le Seigneur. Certains de nos frères et sœurs y sont exposés. Bien sûr, parfois, nous pouvons nous tromper dans ce que nous demandons à Dieu. Parfois, voire plus que parfois, notre demande peut être un peu à côté de la plaque. Mais convoquer la volonté de Dieu, n'est-ce pas quand même parfois l'excuse, certes noble, derrière laquelle nous nous cachons, l'excuse derrière laquelle je cache en fait un peu un manque de foi, plutôt un manque de hardiesse à saisir les promesses de Jésus quant à ce que Dieu peut accomplir à travers moi, individuellement ou nous, communautairement. Pour ceux que je ne me prononcerai pas pour vous, mais j'ai sans doute souvent, consciemment ou inconsciemment, utilisé ce genre d'excuses, moi-même. Des guérisons, des délivrances, des exploits n'ont-ils pas eu lieu à cause de moi ? C'est bien possible. Pardon Seigneur. Mon réalisme, mon rationalisme a pu et peut être parfois des freins à l'œuvre de Dieu. Certainement. Mais je redis aussi, heureusement que Dieu n'est pas limité par mes limites. Heureusement que Dieu n'est pas limité par mes limites. Heureusement que le salut des gens ne dépend pas que de moi et de ma capacité à bien faire selon la volonté de Dieu. Heureusement qu'il peut faire bien au-delà de ce que je peux demander ou même penser. Mais je suis conscient et je voudrais de moins en moins, voire plus du tout. Mais là, j'ai besoin que le Seigneur augmente ma foi pour ne plus être un obstacle aux promesses de Dieu, pour ne pas être un obstacle à l'œuvre de l'Esprit. Plus nous grandirons et plus nous grandissons à la ressemblance de Christ, plus nous aurons une compréhension juste de la volonté de Dieu, je pense, et plus nous laisserons l'Esprit régner en nous. Et mieux nos pensées, nos paroles et nos actes permettront au Seigneur d'œuvrer en nous et par nous, à sa seule gloire. Mais je conclurai par là, sans vouloir me contenter de peu, je terminerai quand même en disant simplement merci Seigneur. Merci Seigneur, personnellement je suis déjà fier dans le Seigneur, plus exactement je suis extrêmement reconnaissant au Seigneur de m'avoir déjà utilisé, d'avoir fait la grâce de m'utiliser, de nous avoir fait la grâce de nous utiliser pour accomplir sa volonté en déplaçant certaines montagnes. J'ai pu pardonner dans des situations où ce n'était pas gagné d'avance. La blessure était douloureuse et profonde. J'ai pu aider plusieurs personnes à se débarrasser d'attaques démoniaques dans leur vie, des visions ou facultés occultes qui les oppressaient, les effrayaient ou les gardaient sous une autre allégeance que celle due à Dieu seul. J'ai pu aider certaines personnes dans leur cheminement spirituel, voire même leur conversion. Ça, c'est certainement le plus beau miracle à mes yeux. Notre prière a-t-elle déterminé ou influencé la volonté de Dieu ? Le débat est encore là bien vaste, mais dans sa grâce, alors qu'il a été placé dans le coma un certain temps, Dieu a permis la guérison de Nordine il y a quelques années. L'Église s'était mobilisée dans la foi pour cela, également pour le cancer d'André ou d'Éric, de Monique. Le Seigneur a déjà dépassé bien des montagnes et bien d'autres montagnes encore. Gloire à Dieu. Miracle ou simple prouesse médicale. Je ne vais pas ouvrir ce vaste chenil non plus. En tout cas, moi, je veux dire que Dieu a fait grâce, que Dieu a exaucé. Et j'espère que nous avons pu ainsi faire la part que Dieu nous avait assignée. Notre foi, ça n'a pas été le cas. Le miracle n'a pas eu lieu. Et j'étais trop timoré, peut-être. Mais je ne veux pas porter une culpabilité trop lourde pour moi non plus. Et Dieu pardonne. Ouf. Merci pour la paix que Dieu a pu donner en toutes circonstances, même celle où il n'a pas exaucé, ou pas semblé exaucé. L'invitation est encore, de toute façon, de persévérer à prier. Prions en tout cas, intercédons en tout cas, demandons la grâce de Dieu sans douter dans notre cœur. Il fera assurément encore des choses extraordinaires. Je l'en remercie et je lui en laisse aussi la souveraineté. Amen. Vaste sujet, hein, avec plein de interrogation encore de choses qui nous échappent. De quoi faire hésiter l'apprenti pasteur que je suis à aborder ce genre de sujet, mais je trouve que c'est intéressant de vraiment y réfléchir. Pourquoi n'hésitons pas à en parler entre nous, partager nos expériences, nos convictions, nos besoins d'aide fraternellement. Et je vous invite à prier pour que Dieu nous aide à grandir dans la compréhension, dans la juste compréhension de sa parole et de sa volonté. Tant de choses nous restent encore impossibles. Seigneur, merci. Merci pour la foi que tu suscites en nous, que tu nous donnes. Veuille l'affermir, la fortifier, non pas pour que nous nous croyions autonomes et indépendants de toi, mais pour davantage comprendre que sans toi nous ne pouvons rien faire, pour davantage nous appuyer sur toi, davantage te faire confiance et te laisser agir, ne pas être frein à l'œuvre de ton esprit, ne pas être frein à la grâce que tu veux faire des fois à travers nous. Merci pour ta patience et ta fidélité, Seigneur. Merci pour tous les exaucements, pour toutes les montagnes que tu as déjà déplacées. Oui, tu es un Dieu extraordinaire, le Tout-Puissant. Bien souvent, ta volonté nous échappe quelque peu, on n'a pas nous la vision d'ensemble. On ne comprend pas toujours pourquoi tu permets ceci ou cela. Fortifie-nous, Seigneur, en toutes circonstances. Garde dans ta paix en toutes circonstances. Et dans ta grâce aussi, libère, guéris. savons que tu le peux. Intercédons pour que tu le fasses, et nous nous soumettons et reconnaissons ta souveraineté en toutes choses. Merci pour Jésus, pour son exemple. Fais-nous grandir à sa ressemblance, pour ta gloire et ta gloire seule.